Merci Fatiha, qui m'a proposé de participer à cette table ronde sur la question des droits et de succession au Maghreb. Ma communication, peut-être, mon intervention, donne l'impression que je serai en train de défendre la charia. Non. Alors, juste pour exposer, c'est quoi le droit de succession d'héritage au pays maghreb, au monde musulman, selon la jurisprudence musulmane. Existe-t-il des situations où la femme hérite d'une part égale ou supérieure à celle de l'homme, comme beaucoup de gens pensent que l'homme a la part de deux femmes en Algérie comme aux autres pays du Maghreb? Alors, j'ai pris 10 cas, pour comprendre la... très compliqué, oui.
La trigonométrie.
Oui, ce sont des cas et des calculs.
Même s'il y a pour mieux voir.
Alors, c'était même pour moi, c'était l'occasion pour comprendre ce droit. Alors c'est des calculs. Il y a même maintenant des applications pour faire le calcul du droit. Je pense selon les rites hanifites et malikites. Non, j'ai pas trouvé une application. Alors, voici, j'ai choisi des cas. Le premier cas, c'est un défunt laisse, c'est-à-dire mort et laisse, un père, mère, épouse, deux enfants, garçon et fille. Alors, 72, vous voyez, 72 actions. Alors, c'est des calculs. C'est des calculs qu'il faut faire pour arriver à ce chiffre. C'est toute une opération, c'est tout un sujet, c'est-à-dire qu'il faut le traiter à part. L'héritage de la femme, alors comme vous voyez, c'est en rouge. Alors, image est en chiffre aussi, à gauche, vous voyez, 9, 13, 12. Alors, 9 c'est le 8e de la femme, 13 c'est de la fille, avec son frère, 12 actions, c'est de la mère. C'est le 6e. Alors, ici, comme vous voyez, la part de la femme est égale à celle de l'homme, c'est-à-dire la part du père et de mère, c'est pareil, le 6e.
Oh, c'est le père et la mère.
Oui, la mère et la mère. Et c'est dans ce cas. Le 8e, c'est pour la femme, comme vous voyez. C'est le 9 actions. Alors, la fille avec son frère, c'est la règle qu'on a déjà parlé, c'est le double part pour... Alors, mère, c'est le 6e. Fille, c'est le 6e, pardon, oui, 6e aussi. Le total des actions des femmes, c'est 34 dans ce cas. Le total des actions des hommes, c'est 38. D, ici, c'est la différence. La différence, c'est 4 actions entre hommes et femmes à la faveur des hommes. Alors, exclusivement l'héritage des enfants, à l'homme revient une part équivalente à ceux de deux femmes. Ça veut dire entre les enfants, entre les frères seulement. Ça, c'est un cas. Un deuxième cas, comme vous voyez, un défunt laisse mère, épouse, fille, frère, germain, parce qu'il y a une différence entre frère germain et frère. Le total des actions, Le départ, c'est 24. Distribué comme suit, comme vous voyez. Alors, le 8e pour l'épouse, le 6e pour la mère, la moitié pour sa fille, comme elle est unique. Elle a le droit de la moitié. Voilà. Alors, toujours en rouge, 3 plus 4 plus 12. Alors, l'homme, c'est 5. Le frère du défunt. Hein. Le frère, ce n'est pas de la fille, c'est le frère du défunt. On t'offre. Alors, la fille 12, le frère germain 5. Le total des actions des femmes, c'est 19. Total des actions des hommes, c'est 5. La différence, c'est 14, mais à la faveur des femmes, dans ce cas. Un troisième cas, c'est qui s'appelle, d'après le texte coranique, Kelela, c'est quoi? C'est un défunt qui est décédé, mais qui n'a laissé ni fils ni père. Ni fils ni père. Alors, l'héritage de la femme, alors le total des actions de ce cas, c'est 18, distribué comme suit, comme vous voyez. Alors, il a laissé un frère germain, sœur germaine, un frère utérin et une sœur utérine. Le total des actions des filles, c'est 7, total des hommes, des actions, c'est 11, la différence, c'est 4 à la faveur des hommes. Un quatrième cas, alors un défunt laisse père, mère, fille, épouse et frère germain. Le total des actions, c'est 24, distribué comme suit. Alors le 8e pour sa femme, le 6e pour son père et sa mère, la moitié pour sa fille unique, voilà, et ses frères germains. 0. Alors 3 à 12, le total des actions des femmes c'est 19, des hommes c'est 5, la différence c'est 14 à la faveur des femmes. Le cinquième exemple, c'est toujours ce genre d'héritage qui s'appelle Kelela, c'est-à-dire quelqu'un qui a laissé deux sœurs germaines et deux frères utérins et n'a pas laissé ni enfant ni père. Alors, l'héritage, c'est parti comme suit, comme vous voyez, Ukhti Shaqiqa, la sœur germaine, le tiers, puisqu'il y a, deux, un tiers et un tiers, voilà, et le frère utérin, le sixième, deux frères. Alors,
oui. Sœur
germaine,
frère germain.
Oui.
Ça veut dire quoi?
Ah, germain, c'est
quoi? Et
ah, c'est quoi? Éthérin, c'est-à-dire c'est sœur de la mère. C'est-à-dire, il est commun, ils ont.
Ah,
oui, du père.
Ah, germain,
c'est le même père et la même mère. Éthérin, c'est la même mère. Et voilà.
Le père, ça n'existe pas.
Hein?
Le père d'un autre père.
Pardon?
Si.
Non, dans ce cas, c'est le père qui.
Oui. Madame, on ne compte pas comme ça. Parce que ça, c'est pas juste. Si on change l'homme, l'homme chapitre. Si le résultat, c'est de doubler au profil des hommes.
Pardon?
Voilà, on ne compte
pas comme ça pour juger l'image. Non, moi, je suis en train d'exposer. On va terminer, on va commencer la discussion.
Quand est-ce que je fais des exemples?
Alors, voilà. L'exemple suivant, c'est ici, c'est une défunte, c'est une femme qui a laissé mère, deux filles, époux et quatre frères germain. Alors, vous voyez, le mari, le quart, la mère, c'est le sixième, les deux filles, c'est le deux tiers, les frères germains, zéro. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas le droit. Alors le total, c'est 13 actions distribuées comme suit. Maire, le 16e, deux filles, le 2 tiers. Le total, c'est 10. Et dans ce cas, le total des actions des hommes, c'est 3. La différence, c'est 7. Un défunt qui a laissé deux sœurs germaines et deux frères utérins, 24 actions aussi réparties comme suit. Le 8e pour sa femme, le 6e pour sa mère, les deux tiers pour les deux filles. Une défunte laisse mère, une fille, époux et 4 frères. Alors, c'est l'exemple où la femme hérite du double de l'homme, comme Mariam il a parlé maintenant. Alors, la fille, ça fait ici la moitié. Son mari, c'est le quart. Sa mère, c'est le sixième. Voilà. Et le reste entre les frères. Alors, c'est ça l'exemple. Oui, l'exemple, c'est ça. Qui a donné Mariam, c'est à la moitié, c'est-à-dire à la pris une part plus que son père. Ici, elle a pris une part, la moitié, plus que son père qui a pris le cas. C'est ça l'exemple de la femme hérite du double de l'homme. C'est-à-dire contre la règle connue que l'homme prit le double de part de la femme.
En fait, ça dépend des exemples.
Oui, c'est des cas, c'est des cas. Oui, c'est des cas. Oui, c'est des cas et des calculs.
C'est pour ça que ce qui est important, c'est de voir les cas et après de voir les statistiques de ce qui se fait vraiment. C'est ça qui est très important. Il n'y a pas beaucoup d'études.
Excusez-moi, laissez-moi terminer et on va discuter. Alors, nous avons un autre exemple de quel elle est toujours, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a laissé ni frère, ni fils, ni père. Alors, il a laissé sœur germaine, frère utérin, sœur utérine et deux frères consanguins. Le total des actions, c'est 12. Alors, réparti comme suit, comme vous voyez, on juge toujours, c'est sa sœur germaine, elle a pris la moitié, sa mère, le sixième, son frère. De mère, oui, son frère de mère, c'est le sixième, et sa sœur Éthérine, c'est le sixième. Je pense que c'est l'avant-dernier. Alors, ici, c'est défunt qui a laissé un père, mère, épouse, fils et une fille. Alors, vous voyez, voilà, le huitième, le sixième, voilà, ici, et le, oui, et par une part égale entre le père et la mère. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il désire les fuqaha et les ulama de sharia à propos de l'héritage de la femme? Office une part équivalente à celle de deux filles s'applique exclusivement à l'héritage des enfants, c'est-à-dire entre sœur et frère. Alors, d'autres cas, c'est d'autres calculs. La règle au mâle revient une part équivalente à celle de femelle n'est pas une règle permanente qui s'applique à chaque fois qu'un homme et une femme réunissent autour d'un héritage, comme le pensent beaucoup de gens. Cette règle concerne uniquement la situation mentionnée par le corps. La part de la femme est égale, voire supérieure, à celle de l'homme. On a exposé des exemples. La part des héritiers ne dépend pas du sexe. Voilà, merci.
Oui, très bien. Merci pour cette présentation. Parce que surtout que les distributions de l'héritage sont tellement compliqué. C'est vrai qu'au Maroc, ils ont commencé, les Hadouls, à utiliser des logiciels.
Oui, des applications.
Dans le rythme Malekit aussi, ils ont fait des petites applications qui valent ce qu'elles vont, mais enfin, ils arrivent à savoir. En fait...
L'application, elle détermine d'abord quelles sont les hérités. Et puis, quels sont les pas.
Oui, c'est ça.
Oui, parce que quels sont les hérités, c'est un problème aussi. C'est-à-dire, c'est les gens qui méritent. Quels sont.
Oui, c'est vrai. Ouais, c'est alors, une première remarque concerne la notion que les exemples qui sont présentés sont effectivement tous des exemples où il n'y a pas le frère. Ou bien, une grande partie des exemples, c'est quand il n'y a pas le père, parce que c'est le assez principal, en fait. Lorsqu'il y a le frère, tout s'arrête. C'est quand il n'y a pas de frère que... Comment on va faire cette distribution avec cette fille qui n'a pas de frère? C'est là où il y a des exemples comme ça, ou bien quand il n'y a pas d'enfant du tout, on est d'accord. Ce qui est déjà un cas particulier. Parce que le frère est le double de la sœur, c'est, on va dire, la statistique la plus fréquente qui, elle, correspond à des millions et des millions et des millions de personnes à travers le monde. Alors que le cas où, par exemple, il y a deux frères demi utérin et frère germain, ce sont des cas un petit peu plus rares, mais je voudrais y revenir, notamment à la question que le double n'est que pour les frères et les sœurs. Non, parce que lorsqu'un homme perd sa femme, lorsqu'il perd sa femme, il hérite d'elle de combien? Quand elle a deux enfants ou quand elle n'a pas d'enfants?
Un quart, un sixième. Le sixième et le quart.
Voilà. Et quand c'est lui qui meurt, combien elle hérite?
Huitième.
Voilà. Donc elle est bien, elle hérite bien la moitié de lui. Ce n'est pas. Et s'il a des enfants, elle hérite encore la moitié.
Non, non, non. Si elle n'a pas d'enfants, ça
l'est. Mais lui, quand il n'y a pas d'enfants, il hérite la moitié. C'est-à-dire que qu'il ait enfant ou pas enfant, le veuf prend toujours le double de la veuve. Et c'est quand même un cas fréquent. Donc ce sont les deux cas les plus fréquents de la distribution de l'héritage dans le monde musulman. Ce qui veut dire que est-ce que l'on est en train de parler de la règle ou parle-t-on de l'exception? L'exception qui est par exemple effectivement quand les parents meurent avant leurs enfants, etc. Maintenant, autre chose. Dans les cas que vous présentez, vous faites l'ensemble des femmes en faveur des femmes. Dans les cas où il y a surtout des femmes, par exemple, vous dites quand le père meurt. Comptez juste le titre, prenez n'importe lequel, s'il vous plaît. Vous allez voir que ce qui est présenté, il y a déjà plus de femmes en présence. Déjà, il y a plus de femmes dans la situation présentée quand le père meurt et le frère n'existe pas. Autre chose à remarquer, c'est que la comparaison se fait, en fait, par rapport à la proximité par rapport au défunt. C'est toujours le sexe qui est premier, mais en l'absence de frère ou de père, ce n'est plus le sexe qui rentre en considération seulement, c'est aussi la proximité, la parenté avec le défunt. Et ça, c'est intéressant, parce qu'à ce moment-là, celui qui est le plus proche en l'absence de frère et de père hérite plus que celui qui est plus éloigné, ce qui est du bon sens. Donc, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure à Fatiha, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire qu'il y a une primauté qui est faite aux femmes, mais non, c'est simplement lorsqu'elle est plus proche du parent et qu'il n'y a pas de fils et de père, eh ben, elle hérite plus que celui qui est très éloigné, c'est un peu normal. Quoi. Si elle n'a ni le sexe ni la proximité, c'est... Voilà, donc c'est vrai que c'est pourquoi je m'inscris souvent en faux quand on dit qu'on ne fait pas de correcte interprétation et qu'il y a une injustice dans les faits.
Merci. Bon, je vous ai dit au début, je vous ai dit que je ne suis pas en train de défendre la situation, mais d'exposer le cas.
Oui, c'était une remarque, mais je pense qu'il a déjà été mentionné quand j'étais dehors à un moment, c'était de poser aussi la question de la mise en application de tout cela. Parce que bon, moi, je l'ai vu plutôt à travers l'exemple des terres collectives, donc ça n'a rien à voir avec l'héritage ni ces aspects-là, mais même dans des contextes où aujourd'hui les femmes se voient attribuer des terres ou une part, les pressions pour qu'elles donnent ou rendent cette part aux membres de masculins de la famille sont énormes. Et le fait de ne pas, de refuser de se plier à ces pressions peut avoir des conséquences assez importantes. Voilà, ce sont des aspects qui bien sûr vont au-delà du calcul. Ces calculs sont une chose, la mise en application est une autre. Par contre, ça c'est aussi une question ancienne, par rapport aux stratégies qui sont mises en place en amont, avant même qu'on arrive à la question des calculs ou au décès même. Donc les stratégies mises en place par les familles, parce que tu as aussi dit que finalement, oui, il y a les fuqaha, etc., qui sont contre, mais qu'au niveau social, il y a un débat qui se fait. Mais je dirais même qu'il y a des pratiques qui se sont mises en place au sein des familles qui essaient de contourner. Bon, il y a la question des waqf qui a depuis longtemps été utilisée aussi pour parfois donner la possibilité aux filles d'hériter. Mais il y a d'autres possibilités. Enfin, je sais, dans ma famille, enfin, moi et ma sœur, on a presque tous les biens de mes parents sont en notre nom. Donc, c'est un peu des stratégies mises en place de mettre tout de suite les choses au nom des filles, mais qui montrent aussi que voilà, au-delà de ce débat, il y a des pratiques qui existent. Sauf qu'elles sont très peu étudiées. Donc, je sais que toi, tu étudies aussi ça, mais il y a très peu. C'est fou ce sujet n'a jamais été traité. Et il faut revenir, bien sûr, à ce que Siam a aussi dit au début, etc., que c'est une thématique qu'on n'abordait pas dans le contexte marocain et dans d'autres.
Les femmes de la haute société, elles sont plus malignes que les autres, elles se font enregistrer l'appartement à leur nom. Et c'est ce qu'on trouve dans les statistiques, là. Si on regarde plus éduqués, plus riches, ont 13% qui ont des apparts, alors que la moyenne, elle est à 7%. Donc, quand même, elles sont pas dues. C'est très bien que quand elles auront 45 ans, elles seront abandonnées, quoi. Enfin, bon. Donc, c'est ça, en Jordanie, hein. Ils se remarient toujours. Donc, avec... donc
juste une petite précision, parce que, bien sûr, on parle du Maghreb ici, mais il y a d'autres cas. Il y a le cas iranien, d'autres cas. Et bon, même si c'est la loi chiite qui est différente, mais d'une part, la législation change selon aussi les pressions sociales. On l'a vu dans le cas de l'Iran où, au début de la révolution, les femmes héritaient beaucoup moins que maintenant parce qu'il y a eu cette pression sociale. Et donc, du coup, aujourd'hui, les femmes héritent le quart de l'héritage dans le cas où il y a des enfants. Mais les femmes héritent quand même, alors qu'avant, c'était un huitième. Maintenant, c'est un quart. Donc, parce que grâce à cette pression sociale, la société a son mot à dire, d'une part. Et pour aller dans le même sens que toi, on voit aussi en Iran de plus en plus de familles, mais bien sûr, il faut posséder quelque chose. Donc, ce sont des familles des classes moyennes et aisées qui donnent à part égale à leurs enfants, filles et garçons, avant leur décès. Parce qu'une fois qu'ils décèdent, c'est la loi qui s'applique, mais avant, c'est... Et la même chose, c'est vraiment important, c'est que, vous savez, le code pénal iranien est calqué sur un modèle islamique. Donc, il y a la loi de talion qui s'applique, c'est-à-dire ressas. Alors qu'il y a de plus en plus de familles qui pardonnent à l'assassin de leurs enfants, de leur mari, de leur femme, etc. C'est-à-dire que ce pardon que le pouvoir politique et judiciaire ou juridique refuse, et parce qu'ils veulent absolument exécuter l'assassin, eh bien, ce sont les familles, donc c'est la société civile qui parle de pardon et qui pardonne. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit à quel point le législateur est souvent en retard dans certains cas par rapport à l'évolution sociétale et de la société. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, que vous prenez en compte? Moi, j'ai feuilleté rapidement votre livre que je trouve vraiment très intéressant. Mais je connais beaucoup d'auteurs dans votre livre quand même, très intéressant. Mais est-ce que on ne peut pas aussi davantage prendre en compte cette société et les pressions de la société sur les lois et sur le législateur, sur le pouvoir? Il y a une...
Je vous ai écouté, Siam Benchikroun, avec beaucoup, beaucoup d'émotions et beaucoup de tristesse. Je ne vais pas évoquer spécialement la question de l'héritage, là, mais la question de l'égalité homme-femme. En me rappelant une situation dans laquelle j'étais en 2003, puisque en 2003, je donnais des cours à l'université Mohamed V à Bagdad, mais comme la philosophie s'enseignait en arabe, j'étais au département de lettres. À ce moment-là, on a mis en place un colloque interdisciplinaire. On a fait venir Françoise Héritier, Geneviève Fraisse, Françoise Collin, Michel Rios-Arcé, puis on travaillait avec de remarquables intellectuels marocains, aussi bien psychanalystes que juristes, que lettrés, que Voilà. Et je donnais des cours sur la philosophie des Lumières. Et on était vraiment, vraiment dans une très grande espérance par rapport à l'égalité homme-femme à ce moment-là. Moi, j'étais dans une situation un peu délicate puisque je suis française et que je ne voulais pas faire d'ingérence avec mes collègues marocains. Mais mon collègue, qui était à ce moment-là chef du département de lettres, Jamal Eddine Lani, me disait « Tu peux dire tout ce que tu veux ici à partir du moment où tu restes dans un cadre académique. » On a fait un très gros colloque à l'université Mohamed V à Agdal avec 500 personnes dans l'amphi. Des femmes voilées, des femmes pas voilées, des hommes, des garçons. Il y avait beaucoup de garçons. C'était en 2005, on travaillait à fond par petite équipe avec des psychanalystes, des juristes, etc. Et donc, c'était en 2004 avec la Moudawana. Et il y avait une totale liberté de propos dans ce lieu qui est quand même une institution. On a fait venir Michel Delon qui a fait une intervention sur Sade. Mon collègue Jamal Eddine Alani, qui a fait une intervention sur le rôle des femmes à l'époque de la Révolution française, a été félicité par Madame Michèle Rio-Sarcey pour la qualité de son féminisme. Elle ne trouvait pas de féminisme équivalent en France. Voilà. Et nous avons, enfin, on a pu faire des représentations théâtrales avec des femmes marocaines. Je faisais un peu de mise en scène, qui lisaient des textes d'amour lesbien, d'Angaretta. On n'a eu aucun problème avec les réseaux sociaux. On était à une époque de totale liberté. Voilà, on croyait aux Lumières. Et là, je suis complètement bouleversée par ce que je viens d'entendre de régression de la société civile, régression de la société civile qui, à mon avis aussi, touche l'Europe, puisque quand on voit ce qui se passe en Italie avec la remise en cause de l'avortement, du mariage civil pour personnes de même sexe. Donc, voilà.
Excusez-moi. Moi, j'aime bien distinguer entre les deux cas si on vérifie l'héritage dans le cadre religieux ou dans les lois étatiques. C'est-à-dire, si on vérifie l'héritage dans le cadre de la religion, bon, n'importe quel rite, il faut le vérifier avec les autres droits qui existent. Droit du mahr, droit de nafaqa, droit d'héritage. Si on distingue, c'est-à-dire on étudie seulement l'héritage, on dit « Ah, pourquoi les femmes, c'est moitié que les hommes ?» Mais si on vient vers les droits sur l'homme, dans le cas du mariage, payer le mahr, payer le nafaqa, ce n'est pas la femme qu'elle s'occupe, qu'elle paye. Donc, à mon avis, si on parle dans le cadre de la religion, on ne peut pas seulement vérifier, parler sur l'héritage, et oublier les autres cas. Mais si on parle de la loi dans l'État, loi étatique, donc dans un pays, si c'est en France, ou dans un pays laïque ou islamique, si on applique charia, c'est une chose, bon, on va respecter. Sinon, après, on va discuter. Est-ce que la justice... Moi, je crois pas que l'égalité toujours est bon. La justice toujours est bon. Des fois, l'égalité, c'est l'injustice. L'égalité, des fois, c'est injustice. Comment l'égalité, c'est injustice? C'est-à-dire, il y a deux cas. Des fois, par exemple, si on considère les deux égales ou égaux, on dit, c'est vraiment l'injustice. Moi, j'ai vu une image qui voulait nous montrer l'égalité n'est pas toujours l'injustice. Il y avait deux personnes avec deux tailles. Un qui est en petite taille, l'autre grand. On disait qu'il voulait regarder un match de foot derrière le mur. On disait qu'on donne à chacun une chaise également même taille, en même taille. La personne qui avait la taille grande, il n'avait pas besoin d'une chaise pour regarder. L'autre qui était petite, si on donnait même, ça ne suffisait pas. Donc, des fois, dans la société, par exemple, on dit l'égalité homme-femme. Est-ce que vraiment les femmes peuvent s'occuper même fonction, même travail que l'homme? Si on dit l'égalité homme-femme, est-ce que c'est bon? Ou on dit la justice entre l'homme et femme? La justice, c'est-à-dire mettre chacun à sa place. Mettre chacun à sa place, vas au kolloshai en fimose. Bon, ça, après, on peut discuter. Des fois. Oui.
Il n'y a pas de place pour personne, les choses sont
mouvantes. Oui, mais on ne peut pas oublier le genre, on ne peut pas oublier, sexe. C'est ça la définition de la justice. Comment vous définir la justice? Quelle est la justice?
La justice, c'est que tu as des personnes qui ne se réfèrent pas qu'on se réfère à des
pour revenir au sujet en particulier de l'héritage, et en fait ce que vous dites c'est que ça ne doit pas être pris de manière isolée. Oh, c'est très gênant. Donc ce que vous dites, c'est que ça ne doit pas être pris isolé, mais il faut voir dans le contexte global, et vous avez parfaitement raison. Mon frère a eu un gros problème professionnel, il a fait quasi faillite. Il était marié à une femme très riche, qui gagne vraiment beaucoup d'argent, un gros salaire. Elle a divorcé, elle est partie. Elle a pris l'enfant, elle est partie. Il s'est retrouvé à devoir payer une pension importante alors qu'elle a un salaire important, à être privé de son enfant, etc. Il est évident que nous ne devons pas faire la même erreur, c'est-à-dire être injuste vis-à-vis des hommes ou être injuste vis-à-vis des femmes, et le voir dans un contexte global. Je veux vous dire que dans ce qui concerne mon pays, les femmes subissent un très lourd tribut. Elles sont abandonnées à leur sort. Elles sont dans une inégalité totale au niveau économique. Elles n'accèdent pas au travail. Elles sont placées petites bonnes. Elles travaillent pour leur famille, pour leur père qui les envoie travailler à 5-6 ans et qui travaille toute leur vie pour leur père. Et ensuite, le frère qui a passé sa vie au café vient hériter du double. Je veux vous dire que les scandales sont tellement importants que je pourrais vous convaincre en 10 minutes que c'est vraiment injuste. Maintenant, dans un système global, il faut pouvoir répondre. Il y a des filles qui, aujourd'hui, ne pourraient rien faire sans... Aujourd'hui, vous faites un sondage auprès des Marocaines. Êtes-vous prête à laisser tomber la pension, Nafaka? Elle dirait non. Ben, c'est pas possible. On ne peut pas, d'un côté, obliger l'homme à des devoirs supplémentaires, et en même temps, ça n'a pas de sens. Donc, la justice, c'est prendre ça dans l'ensemble, sans rentrer forcément dans des considérations sur la place de l'homme ou de la femme, pour une raison simple. C'est que je peux avoir le droit, moi, d'être aviateur si je veux, même si j'ai un sexe féminin. Et là, quand on rentre dans le concept du genre, c'est un autre débat philosophique. Mais si on est dans la justice, tout simplement, vous dire qu'il y a vraiment des soucis de justice. Je voudrais répondre aux deux questions qui m'ont été posées, et puis revenir vers vous, parce que moi aussi j'ai été touchée en vous écoutant, vraiment. Ce que tu disais par rapport au contournement de la loi, je suis moi. Oui, non, c'est Yasmine derrière toi. Moi, je suis mère d'une maman, d'une fille. Moi, je suis mère d'une fille unique. J'ai un appartement que j'ai acquis à force de travail. J'ai un appartement. Cet appartement, si aujourd'hui je le cède à ma fille, pour éviter que mes frères que j'aime beaucoup viennent l'embêter avec 25% en lui disant tu le vends si elle ne veut pas le vendre une fois que je meurs, parce qu'ils peuvent avoir 1% et l'embêter pour la vie, même s'ils sont adorables, je suis obligée donc de le donner. Mais si je le donne, je n'ai rien. Autrement dit, tes parents sont obligés de se dépouiller pour assurer, mais c'est un contournement qui va dans un sens de grande violence. Si aujourd'hui je vends cet appartement, moi j'ai rien, j'ai pas de retraite, j'ai rien du tout, moi en tant que médecin j'ai rien. J'ai que mon travail.
Et bien sûr, je peux très bien faire confiance à ma fille, le problème n'est pas là, lui dire « redonne-le-moi ». Mais non seulement ça me coûte très cher de lui donner, mais après je n'ai rien du tout. J'aimerais bien pouvoir éventuellement avoir ce bien pour adopter. Donc le contournement est une grande violation.
Moi, je parle de contournement pas en tant que solution,
bien sûr,
en tant que signe qu'il y a,
malaise. Absolument. Par contre, il y a une étude qui a été faite par auprès de notaires, et qui ont montré, alors évidemment, le contournement étant légal, tu ne peux pas le suivre par le tribunal, aller voir les cas de justice, puisque c'est légal, et ce n'est pas dit, je suis en train de faire un contournement, je donne. Donc, il y a eu ce qu'il a reporté, ce sont les cas de problème après le contournement. Les cas de donation où l'enfant, tu donnes à tes filles, et puis une fille meurt, ou alors le mari spolie, enfin bref, toutes les choses... Ces cas ont été reportés et publiés dans le livre de la chercheuse Hassan, notamment « Contester le droit ». Et c'est vraiment intéressant. Oui. Donc il y a eu une ébauche de publication. Et moi, il y a une enquête qui a été faite, publiée dans le livre, de discussion avec des parents de filles. C'est intéressant pour voir que tu peux être très religieux et considérer que tes filles sont fragilisées. Bon, voilà, donc je crois. Et puis,
il y a pas que il y a aussi les enfants adoptés aussi.
Alors, ça, on n'est pas dans le même cadre. Parce qu'on n'est pas dans le cadre de l'héritage, on est le cadre dans la... ce n'est pas une filiation. Ce n'est pas reconnu comme une filiation, donc c'est autre chose. Et enfin, votre remarque, et ça me désespère, parce que j'ai assisté moi-même à cette rétrogradation. C'est-à-dire que... aujourd'hui, je travaille avec une amie qui est très voilée, et moi, je ne suis pas voilée, et nous revendiquons de ne pas être regardés sur cette apparence-là pour pouvoir libérer la parole. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une radicalisation dans le pays avec une inculture grandissante. Et c'est bouleversant d'entendre que c'était seulement en 2004 que vous faisiez ce que vous faisiez.
Je vais répondre, monsieur, je vous ai un peu répondu agressivement, et je vous prie de vouloir m'excuser. Parce qu'en fait, il me semble que pour réfléchir à la justice, on se prononce quand même sur des personnes, ce qui est dû à des personnes. Et sans faire de luxe avec la philosophie, ça suppose quand même qu'on réfléchisse à ce qu'est-ce que c'est que l'identité de la personne. J'entends par là que, par exemple, quand on parle de nature, ça signifie du biologique. Mais la question est de savoir ce qu'il est pertinent et rationnel de dériver du biologique d'un point de vue psychologique, moral, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une différence seulement biologique? Là, je pense ici à Marie de Gournay, puisque j'ai écrit Montaigne et le genre instable, justement, pour montrer comment c'était important de penser, réfléchir à la notion d'identité. Montaigne était magistrat. Qu'est-ce qu'on met derrière cette identité, qu'est-ce qu'il y a de naturel dans l'identité, qu'est-ce qu'il y a de construit, qu'est-ce qu'il y a d'artificiel, qu'est-ce qu'il y a de stable, qu'est-ce qu'il y a de mouvant, etc. Tout ça pour dire que bon, ça me semble quand même pas juste, je veux dire, d'un point de vue rationnel, d'homogénéiser les femmes dans un même groupe, parce que selon les classes économiques, sociales et géographiques, il n'y a pas, Montaigne disait, leur plus universelle qualité, c'est la diversité. Donc, se prononcer du point de vue de la justice en homogénéisant cette espèce de chose étrange que constituent les femmes, je pense que c'est quand même assez contestable, puisqu'il y a davantage une diversité qui se construit quand même très librement à partir d'une nature qui n'est que biologique. Donc, se prononcer juridiquement là-dessus en renvoyant les choses à des identités naturelles figées, ça me demande quand même, je pense que ça demande quand même beaucoup de réflexion.
Et, bon, ça fait un moment que j'ai voulu intervenir en regardant la dernière présentation avec le pourcentage d'héritage. Et je pensais au livre « Les deux sœurs et leur mère » de Françoise Héritier, que si elle était parmi nous, elle aurait pu faire un substrat et biologique dans toute cette argumentation. Alors, donc vous m'avez donné l'occasion, puisque vous avez mentionné la place naturelle, et vous aussi. Ce que je n'ai pas dit aujourd'hui dans mon exposé, c'est que ce droit à la succession et à l'héritage qui promeut les filles, et c'est, son fondement, c'est la biologie. Mais alors, la biologie, comme interprétation culturelle, comme c'est la nôtre, hein, comme c'est notre biologie, bio, enfin, tout ce qui est biomédical chez nous, qui est objectif et incontestable, alors là où j'ai travaillé, dans cette société Uxori Matri locale, et la biologie alors dit autre chose. Qu'est-ce qu'elle dit? En posant les questions, mais comment se font les enfants? Enfin, je ne pouvais pas poser la question, comment se font les enfants, hein, à l'âge de 29 ans. J'ai dit, comment c'est autrement? Bon, j'ai dit, parle-moi de tes avortements. Et alors, elle a commencé à me dire, mais tu sais, l'enfant se fait à partir du sang. Je dis, oui. Elle a dit, tu sais, hélas, ça c'est une preuve, tu peux avoir des règles pendant les premiers 3 mois. Oui. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec le placenta, je pensais. Mais ce n'était pas ça pour elle. C'était que la preuve que l'enfant se fait à partir du sang matriciel, c'est que du sang menstruel pouvait se faire voir, à cause des problèmes de placenta, selon nous, mais pas selon elle. Et pas selon elle toutes qui m'ont... Et transformer ce que les médecins, les obstétriciens leur disaient à Athènes, après une fausse couche, par exemple, elle insistait et me disait, et tu sais, le gynécologue à Athènes me disait, bah, fais attention à ne pas tomber enceinte avant 4 ans, après l'opération que tu as eue. Il faut faire attention autour des jours de règles. Alors là, je jure que le médecin n'a pas dit une chose pareille, mais c'est elle qui a entendu cette chose. Parce que pour elle, c'est que pour nous, c'est l'ovulation. Aux antipodes des règles, donc c'est un mauvais signe, les règles, et le bon signe, invisible, hein, l'ovulation. Alors pour elle... Et pour toutes elles, et pour eux, parce que après je fais des interviews avec les hommes, comment se font les enfants, enfin bon, c'était un peu... Ils me disaient, quels sont les pires moments, les moments, les pires pour une... Enfin, quels sont les pires moments pour... oui, enfin, on parlait de la contraception. Et c'était même les hommes qui me disaient... Bah écoute, autour des règles, oh là là, c'est le plus grand risque. Alors, c'est une biologie qui fonde le système que je vous ai décrit ce matin, comme ça doit être une biologie qui donne une place aux femmes dans nos mentalités. Et, bah, bien sûr, c'est de l'essentialisme dans chaque culture, c'est la sûreté. Que la biologie, c'est ce qu'elle a en tête dans les discours et avec les lexiques qu'on emploie. Je fais un travail avec les bouquins, les livres du collège de biologie. Alors, les discours, les vocabulaires pour décrire la fonction des spermatoïdes et des ovaires, c'est vraiment les verbes qu'on emploie. C'est pas seulement ça, c'est que par exemple, les spermatides sont protégés dans un truc, enfin machin, et le sang, ça s'en va, mais avec enfin, un verbe qui pourrait très bien dire mon oncle est mort hier soir. Enfin, mais tout ça, c'est de l'objectif, hein. On les prend comme donné, comme naturel, comme évident. Comme scientifique, enfin, comme incontestable. Le rapport, c'est qu'il n'y a pas de nature. Enfin, la nature, c'est déjà une représentation. C'est une représentation. La biologie naturelle, ce qu'on a de plus concret, nous, pour nous dire le sexe fonctionne comme ça, donc les caractéristiques émotionnelles, psychologiques, etc., etc. Mais non,
c'est avant les caractéristiques émotionnelles, sociales, etc. C'est ce qui donne le caractère à la biologie. La biologie, c'est fait après. Voilà, c'est ça.
C'est une idéologie d'après vous. Bon, on va réagir. Est-ce qu'il y a d'autres...
Bon, ben finalement, cette question de l'héritage, c'est en fait c'est une question de changement institutionnel et d'adaptation, parce que c'est un système qui a très bien fonctionné. Et c'est vrai hein, que si les gens y tiennent, c'est parce que c'est un système qui y avait un équilibre quand même dans cette prise en charge des femmes. Et là maintenant, bon aujourd'hui, comme tu l'as décrit, c'est devenu impossible, quoi. C'est devenu très violent, très. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment les femmes réagissent par rapport à ça. Moi, en Algérie, par exemple, je connais plusieurs cas de femmes. Bon, ça, c'est pas l'héritage, mais c'est en situation de divorce qui, avant de partir, qui attendent que le mari soit pas là pour amener un camion et emporter tout ce qu'il y a dans la maison. Mais il y a beaucoup de cas comme ça parce qu'elles savent qu'après, elles vont rien récupérer. Donc, il y a des choses, il y a des stratégies, des choses très. Par rapport à un système qui est quand même vécu comme. Comme injuste, voilà, c'est ça le vrai problème, c'est-à-dire que c'est à partir du moment où il est vécu comme injuste, bon, il faut le changer, quoi. C'est alors après, il faut trouver comment. Et moi, je trouve que la démarche, c'est une démarche intellectuelle, mais c'est tout ce qu'on peut faire nous, les intellectuels, hein, c'est de formuler les choses de manière juste, justement, c'est-à-dire.
Des enquêtes ont été faites par des journaux au Maroc et aussi par le.
Michel.
Non, je ne sais plus, l'organisation internationale, l'ONU Femmes. Et elle a montré que ces enquêtes ont montré que 80% environ de la population marocaine est contre le changement de l'héritage. Femmes comprises, hein, au minimum de 80%, 85%. Et en fait, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans une société hybride et polyforme. C'est-à-dire que vous avez plusieurs Maroc dans le Maroc, comme vous avez plusieurs pays. Et il y a des situations où, qui sont un extrême d'une autre situation. Et c'est dans ce Maroc pluriel, polymorphe, où on essaye d'avoir un équilibre, quelque chose qui soit cohérent. Parce que vous disiez que quand il y a injustice, ceux qui subissent l'injustice mettent en place des stratégies. Et c'est vrai, et parfois les stratégies sont terribles. Une amie sénégalaise me disait que c'est formidable le mari qui a 4 femmes au Sénégal, mais ce qui se passe, c'est qu'il meurt très vite empoisonné. Parce que comme elles mettent des stratégies en place, des stratégies de destruction. Et au Maroc, par exemple, quand une femme se sent écrasée, elle fait par exemple ça, elle va voler des choses, elle va prendre des... Parce que là, moi j'ai suivi des femmes qui me disaient, moi l'argent qu'ils me donnent, j'utilise une partie, l'autre partie je la cale. Et finalement, il y a un tas de choses comme ça. Ou alors elles vont chez les voyants et les sorciers. À chaque fois qu'il y a injustice, les victimes mettent en place des choses. De toute façon, et les victimes ne sont pas toujours les femmes dans ce cas-là, hein. Mais il y a nécessité de réponse et surtout de ne pas laisser les femmes au banc de la société, reléguées à elles-mêmes, répudiées, divorcées, veuves, qu'elles a violées, jetées au banc de la société, harcelées, etc. Parce qu'il y a une mentalité machiste qui se durcit et qui retourne et qui revient et qu'il faut répondre et que nous avons, nous, un devoir d'assistance à cette redanger de la féminisation, alors qu'elle l'a toujours été. Mais on recommence maintenant à redire que je suis un être humain comme les autres. 21e siècle, je suis obligée de prouver ça, de dire que j'ai droit à choisir ma vie, etc. Et c'est effectivement une détresse. Mais absolue.
Le 20% de la société qui est pour.
Ah oui,
comment on peut les décrire? Ce sont des composants de qui?
Les enquêtes ont montré que 8 fois sur 10, on répond non, pas de changement. Mm-hmm. Les 2 sur 10 peuvent être pas de réponse, ou bien oui, il faut un changement, il y a de l'injustice. Mais c'est quand même 8 personnes sur 10, dont à peu près 60% d'hommes et 40% de femmes, qui considèrent que ça doit être intouchable. Mais il y a beaucoup dans cette réponse une méconnaissance, parce que si moi je pense que Dieu me dit « il faut que ce soit comme ça », je ne vais pas dire non. Mais enfin, qu'est-ce que vaut la loi de l'homme à côté de la loi de Dieu ? C'est normal si ma réponse est dictée par la peur. Mais à partir du moment où je comprends la finalité, l'injustice possible, etc., alors ma réponse change. C'est pourquoi il faut beaucoup de douceur aussi dans cette, dans cette démarche. Qu'il ne fasse pas peur aux gens. Absolument. Une éducation, une douceur, et surtout pas d'arrogance. C'est-à-dire que, voilà, parce que les intellectuels gauchistes ont un petit peu cette attitude, comme d'ailleurs les extrémistes musulmans, à ne pas s'écouter les uns les autres et à traiter l'autre d'imbécile, ben ça nous fait, au fond, rester dans la même absence de communication totale, et ce seront encore les femmes qui vont payer cette absence de communication.
Mais quand les gens pensent que quelque chose, comme le droit des règles de succession, comme ça, est coranique, alors qu'ils ne le sont pas, nous avons un parallèle... situation assez analogue avec les wakf, parce qu'il n'y a rien du tout de coranique, vraiment rien du tout, pas un mot. Il y a des hadiths, par contre, mais il n'y a rien de coranique là-dedans. Et puis, il y avait aussi beaucoup de gens qui pensent que c'est quelque chose de coranique. Et non, rien du tout. Donc, c'est fait par la société, c'est fait par les hommes et les femmes, et changé, il y a modifié, abrogé, il y a si c'est la politique choisie par un pays, alors il n'y a aucun problème sur le plan religieux, mais c'est toujours entendu comme ces choses sacrées. Et même vendre une propriété qui appartient à une fondation, il n'y a aucune entrave vis-à-vis de la religion, rien du tout. Mais les gens vont dire, mais non, c'est sacré, on ne peut pas, c'est religieux, c'est dans le Coran. Les gens pensent que c'est dans le livre, au Liban. Les chrétiens pensent que c'est biblique. Et donc, on a entendu plein de fois aussi des terres qui appartiennent au monastère. On dit, c'est wak, on ne peut pas le toucher. Mais pourquoi? Ah ben, c'est dans la Bible. Alors, donc je veux dire qu'il y a beaucoup de malentendus à ce niveau-là.
Il y a aussi quelque chose qui va forcer le changement, c'est le conflit de loi dont on n'a pas du tout parlé aujourd'hui, qui est le fait que les mariages mixtes sont de plus en plus importants. Alors du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, mettons par exemple, une femme, une française, mariée à un Marocain, lui est musulman, elle est chrétienne, et puis ils ont deux enfants, un garçon et une fille, et puis à un moment, ils vont parler de cet héritage, et ils se trouvent en porte-à-faux. C'est-à-dire que la mère dit, mais ça n'a aucun sens, je ne peux pas accepter, j'ai deux yeux, j'en ai pas un seul, j'ai deux yeux, j'en ai pas un supérieur à l'autre. Mes enfants, je les ai élevés de la même façon. Ils ont grandi de la même façon, je les ai couvés de la même façon. Je ne peux pas admettre qu'à ma mort, ce que je donne à l'un soit supérieur à ce que je donne à l'autre, alors qu'ils vivent de la même façon. Et le mari dit non, on ne peut pas toucher à ça. Et il y a des conflits qui se sont produits. Et aujourd'hui, en France, pour prendre que l'exemple français, il y a aux tribunaux des sœurs qui ont porté plainte contre leurs frères en demandant que la loi qui soit adoptée soit la loi française parce qu'ils habitent là et qu'ils ont vécu ici et que ce soit la loi laïque et que le frère, lui, au moment de la mort, préfère redevenir musulman. Et il y a des conflits de plus en plus importants. Et ce qui a été décidé maintenant, c'est que, en fonction de l'endroit où on meurt, c'est la législation du pays où on meurt qui prend le relais. Mais c'est pas simple quand les biens sont, par exemple, en France et au Maroc. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est l'exemple de l'excision. L'excision a été défendue pendant très longtemps parce qu'on a toujours dit que c'était quelque chose de sacré et de voulu par Dieu. D'où l'importance de l'éducation. Aujourd'hui, au Maroc, on est une personne sur deux est analphabète. Qu'est-ce que vous allez raconter sur la lecture?
Non, surtout qu'il y a énormément de choses de la vie courante qui ne sont pas conformes au Coran. Hein. Dans l'économie, par exemple, on pratique tous les jours le riba. Tout ce qu'on fait dans l'économie n'est pas du tout conforme au fondement du droit musulman et des aspects très, en plus très, très équitable hein, du droit musulman. C'est pas sur le.
Oui.
Donc dans l'économie, par contre, on est complètement dans le haram tous les jours. Et ça pose pas de problème.
Mais c'est pas seulement ça. L'alcool est fabriqué au Maroc et il est vendu.
Oui.
Voilà. Donc, la prostitution. Mais je veux dire, c'est une évidence que.
Je crois qu'il y a les intérêts. Enfin, pour les hommes, c'est clairement quand même une affaire d'intérêt, hein, d'avoir le double. Ça compte quand même. Ils vont pas lâcher ça comme ça. Hein.
Après, c'est qu'il faut quand même voir, au niveau de la famille, on ne peut pas faire un coup comme ça à l'arrière, c'est dans le social, c'est le problème de l'heure. C'est-à-dire que si un frère est double, c'est le problème de la mentalité qui est
fouille.
Donc, si un frère n'est plus pas aider sa soeur, etc., donc mon grand-père qui était russe, il aidait toujours ses soeurs quand il voyait que la famille en a besoin.
J'ai le cas de deux frères que j'ai eu en témoignage. Alors un frère me dit qu'il a dit non, quand le père est mort, il a dit pas question, moi on a quatre sœurs, on est deux frères, on a toujours vécu ensemble de la même façon, moi je veux partager la même chose que mes sœurs. Il disait c'est honteux de leur dire qu'on va prendre le double. Et l'autre frère a dit bah dans ce cas tu vas être considéré comme une femme et tu auras la moitié, mais moi je ne bouge pas. Il s'est opposé, ça ne s'est pas fait, hein.
Puis il y a aussi la question de l'indivision, c'est qu'avant, ça restait beaucoup dans l'indivision, donc les gens restaient dans la maison familiale, les femmes divorcées revenaient et tout, mais maintenant, ils veulent vendre, chacun veut sa part, et quand ils veulent tout de suite qu'on fasse le partage pour vendre et pour consommer, pour dépenser l'argent tout de suite, donc il y a ça aussi, c'est que l'héritage, c'était quand même un équilibre, par rapport au fait que dans la maison familiale, il y avait toujours des sœurs célibataires ou des sœurs divorcées ou qui revenaient vivre chez le chef de famille.
En fait, c'est un système qui est dépassé aussi par l'évolution de la société. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un tel chômage qu'il y a beaucoup d'hommes au chômage. Et si ces hommes continuent à dire « bon, la femme et les enfants restent à la maison », ils vont mourir. Il faut que la femme aille sortir faire des crêpes dans la rue, qu'elle aille travailler dans les ménages. Il n'y a pas le choix. Vraiment, le chômage touche, comme j'écris dans le livre, les plus musulmans. Donc, il y a une vraie crise de la société. Il y a une paupérisation grandissante. Il y a un déséquilibre social important. Et par rapport à ça, nous n'avons pas des réponses qui arrivent à être en conformité avec la religion. Parce qu'au lieu d'adapter les réponses musulmanes, on reste sur des réponses anciennes et qui sont désadaptées. Voilà.
Oui, ils sont là. Je crois qu'on va. Vous voulez encore parler? On va arrêter là, on est un peu fatigués là.
Il me semble que vous êtes quand même très optimiste parce que je trouve qu'il n'y avait aucune arrogance dans le mouvement de pensée qui allait vraiment dans le sens d'une émancipation. Et aussi bien en France, les études de genre sont réduites à extrêmement petit nombre de gens intéressés.
Oui, mais c'est comme ça. Toujours comme ça, il y a toujours des parties de la société qui sont où on peut beaucoup avancer dans la réflexion, mais après, l'université, c'est un espace quand même assez particulier.
Non, mais c'est quand même la
désertion, c'est un rail du champ
en France. On voit comment va le monde.
Pour vous donner une note d'optimisme, en Algérie, il y a une jeune femme avec le hijab qui est allée faire du footing une heure avant la rupture du jeûne dans la forêt de Bouchaoui à Alger. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et elle s'est fait adresser par un jeune homme qui lui a dit « tu devrais être dans la cuisine en train de faire le repas du Ramadan ». Et il l'a frappée. Et elle est allée au commissariat pour porter plainte. Et les gendarmes lui ont dit « bon, je ne sais pas s'ils ont pris sa plainte, en tout cas ils ont dit « oui, il a raison, maintenant tu devrais être dans la cuisine ». Et elle a posté sur YouTube une vidéo où elle raconte ça en pleurant, en disant « moi j'ai l'habitude de faire mon footing tous les jours ». Et ça a ému. Et ils ont organisé, alors, à Alger, à Annaba, à Constantine, un jogging où il y a eu des centaines de femmes et des centaines d'hommes qui sont venus courir pour les. Et c'était super, parce que ça, c'est les réseaux sociaux, c'est des trucs
que les policiers lui ont dit, mais qu'est-ce que tu faisais dehors?
Voilà, tu devais être dans la cuisine, oui. Elle a dit, mais... Et elles ont dit, alors ça s'appelle Alwa Fitjeri, viens courir. Et elles ont dit, on a le droit d'être partout. Pas que dans la cuisine. Non, mais bon, après, ça fait rigoler. Enfin, moi, j'ai discuté au téléphone avec un collègue, j'ai raconté ça, il m'a dit, oh ben oui, vous de la France, ça vous plaît, tout ça, mais nous, franchement, on est blasés de tout. C'est pas un truc comme ça qui va nous rendre notre optimisme, tellement la situation est catastrophique. Mais quand même, c'est en fait, c'est le phénomène aussi de pouvoir mobiliser les gens par les réseaux sociaux. Ça, c'est... Oui, oui, on doit se retrouver là.
Bon, déjà, on va remercier tout le monde. Je me permets de prendre la parole. Pour remercier tout le monde, les intervenantes, les intervenants. La discussion, la salle, vraiment, c'était. Moi, je le trouvais très stimulant. Et merci beaucoup d'avoir fait le voyage et le travail de préparation. Merci. C'est la première fois que je vous entends parler, Siham. Passionnant. Et on va continuer, sûrement, dans un sens ou dans un autre. Donc, merci. Je passe la parole à Fatiha. Merci à toi pour la collaboration.
Merci à tout le monde. Finalement, c'est quand même le résultat d'un travail de longue haleine où tout le monde a participé, a fait sa part, quoi. Et voilà. Et je voulais dire justement, je ne sais pas si ça vous intéresse, mais qu'on prévoit d'organiser une journée en novembre sur Fatema Mernissi, enfin sur l'œuvre de Fatema Mernissi. Donc voilà, si s'il y en a qui ont des choses à dire sur son œuvre. Ben vous êtes les bienvenus. Voilà, merci beaucoup et.